Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polothèque
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, cette année marque le centenaire du génocide des Arméniens, qui, je le rappelle, entre 1915 et 1916, a fait 1 300 000 victimes, soit 2/3 des Arméniens vivant dans l'Empire ottoman. Et nous avons choisi d'en parler aujourd'hui avec l'historien Yves Ternon, qui a co-dirigé avec Raymond Kevorkian le mémorial du génocide des Arméniens, qui est paru en novembre dernier aux éditions du Seuil. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez tout d'abord, Yves Ternon, nous présenter ce livre et aussi les différentes personnes qui ont participé à un livre que vous avez conçu comme un mémorial avec de nombreux témoignages et des textes d'origines très diverses.
Alors, ce livre était une idée de Gérard Chalian qui nous a proposé à Raymond Kevorkian et moi, qui représentons deux générations différentes de la recherche sur le génocide des Arméniens, de faire le bilan, en quelque sorte, de 100 années de recherche à travers la documentation, en faisant une sélection des documents dont on dispose, qui seraient particulièrement représentatifs des séquences de ce génocide. Donc, nous avons sélectionné des documents, on en avait d'ailleurs plus qu'il n'en fallait, donc on a été obligé de couper un petit peu, et nous les avons ordonnés dans une chronologie qui nous permettait de voir les deux étapes du génocide, c'est-à-dire le processus génocidaire. Nous avons limité ça dans une tranche de temps de 1900 à 1918, 1916-18. Et donc le processus génocidaire qui voit monter les menaces à l'encontre des Arméniens de l'Empire ottoman jusqu'en 1914, l'éclatement de la guerre mondiale, l'entrée en novembre 14 de l'Empire ottoman dans la guerre, et dans la très courte période entre novembre 14 et mars 1915, la prise de décision de détruire la totalité des Arméniens vivant dans l'Empire ottoman, ce qui correspond aujourd'hui à ce que l'on appelle un crime de génocide. Et donc, à partir d'avril 1915, où se met en place tout le système de l'opération, nous suivons les deux étapes principales, c'est-à-dire massacre, déportation dans les foyers arméniens de l'Empire, et ensuite, suite de la déportation d'Alep à Derzor, qui était en quelque sorte le terminus de leur calvaire.
Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est, vous l'avez dit, vous retracez, vous documentez toutes les étapes du génocide, et vous revenez également sur la genèse, pourrait-on dire, peut-être même c'est-à-dire, dans l'introduction, vous parlez véritablement de tout ce qui se passe avant, et notamment déjà les massacres qui vont avoir lieu en 1894 et 1896.
C'est ça, parce que je crois qu'il est important, si l'on veut comprendre ce qu'est le crime de génocide, et comme nous le faisons au mémorial de la Shoah de façon comparée avec les différents génocides du XXe siècle, et en particulier bien entendu la Shoah, c'est d'analyser le processus génocidaire et de remarquer dans ce processus génocidaire, qui est un temps long d'ailleurs, les similitudes qu'il y a, les étapes successives qui font qu'il n'y a pas une cause d'un génocide, mais un enchaînement des causes et des effets, une sorte de concaténation, pour employer un mot savant. Donc, on retrouve ces mêmes étapes dans tout génocide, en tout cas dans les cas des génocides modernes du XXe siècle, avec cette étape fondamentale qui est la déclaration d'une guerre mondiale, ou d'une guerre civile d'ailleurs pour les Tutsis, qui va accélérer la prise de décision. Donc ce sont ces étapes que nous avons cherché à retracer en utilisant une documentation très diverse, qui est d'abord celle des déclarations officielles des jeunes Turcs qui vont procéder donc à ce crime, et aussi de la constatation que font les Arméniens de la menace qui pèse sur eux, menace qui, pour les dirigeants d'ailleurs des partis arméniens, équivaut à une quasi-certitude d'extermination, que de destruction.
Justement, parmi ces documents officiels, certains ne laissent aucun doute sur la planification et la volonté d'extermination du peuple arménien. Je voulais juste lire ce télégramme, un télégramme circulaire adressé par le ministère de la guerre au commandant d'armée et de division le 28 février 1915. Du fait des circonstances actuelles, le décret impérial relatif à l'extermination radicale de la race arménienne a été publié. Il faut se comporter à leur égard de la façon suivante. Petit 1. les Arméniens et ceux qui sont considérés comme tels dans l'Empire ottoman doivent être, à l'exception des enfants de moins de 5 ans, sortis des villes et des villages et massacrés.
C'est cela, parce qu'on retrouve le même système d'ordre avec, coiffant les administrations civiles et militaires, l'organisation spéciale que l'on découvrira plus tard en 1919 au cours des procès, dont on découvrira la réalité, qui envoie des secrétaires responsables dans toutes les provinces qui ont ordre de contrôler le processus de destruction. Et sous le prétexte, bien entendu, de la protection des civils, prétexte fallacieux, de la protection des civils au niveau des zones de guerre. Mais en fait, il y a ce paradoxe, c'est qu'au niveau des zones de guerre, on les tue tous, ou pratiquement, alors que plus on s'éloigne du théâtre de guerre, plus le système extermination, déportation, avec séparation des hommes et des femmes et des enfants, qui lui n'est plus justifié, bien entendu, par des mesures militaires, se trouve appliqué. Et ça, nous le retrouvons dans les faits, dans la documentation. Ce qui est intéressant, c'est la conjonction de trois éléments. D'abord, ces déclarations officielles qui sont vraiment officielles, puisque ce sont des documents qui ont été produits au cours du procès des unionistes en 1919. L'association avec les déclarations des témoins, qui était ce que l'on savait tout de suite dès 1915, les diplomates recueillaient tous les témoignages des neutres ou des Allemands d'ailleurs, ou autrichiens, qui étaient là comme alliés de l'Empire ottoman, et puis ensuite les témoignages arméniens. Et nous nous sommes juste contentés d'utiliser les témoignages arméniens jusqu'en 1923, c'est-à-dire jusque dans une mémoire proche, que la répétition du discours ne risque pas d'altérer la qualité de la mémoire.
Et c'est ça qui est très frappant dans votre livre, c'est de voir notamment la reproduction de très nombreux télégrammes ou lettres provenant des différentes ambassades occidentales, et de voir à quel point les puissances européennes et américaines notamment étaient au courant très précisément de ce qui était en train de se passer.
Vous croyez que c'était pas la même chose pour la Shoah ? Donc c'est pour ça que c'est intéressant la comparaison, si vous voulez. On sait, et puis ensuite on adapte en sachant ce qu'on peut faire. Il est évident que les Américains apportaient de l'aide financière, matérielle, mais elle était filtrée. Qu'est-ce que pouvaient faire les Français, les Anglais, enfin l'Entente, les Russes, qui étaient donc
en pleine guerre,
donc ils ne pouvaient rien. Les Allemands pouvaient quelque chose.
Les Russes sont intervenus d'une certaine manière du côté du lac de Vannes.
Voilà, ils sont intervenus à Vannes en mai 1915. Donc d'ailleurs, la résistance de Vannes, parce qu'on massacrait complètement avant le début du génocide, était un acte de défense, d'autodéfense.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode.
Alors, dès le début de la guerre, le gouverneur de Vannes, qui s'appelait Djevdet, va attaquer en Perse l'armée russe. Et la Perse est neutre, mais il y a des armées russes. Donc il va ravager les villages chrétiens, c'est-à-dire arméniens et chaldéens. Et puis, repoussé par l'armée russe, il revient dans la province de Vannes. Il ravage tous les villages arméniens. Les gens se repoussent vers Vannes. Et là, en avril, avant le début du génocide, les gens se regroupent et vont résister. Ils vont résister un mois, parce que l'armée russe va venir les délivrer en mai 1915. Donc ça, c'est utilisé évidemment dans l'argumentaire négationniste, comme les Arméniens se sont révoltés, donc il fallait faire quelque chose. Mais c'est antérieur, c'est un mouvement différent. Là aussi, il y a une sorte de manipulation des médias. Alors après, en l'hiver 1916, l'armée russe va pénétrer donc au nord de la région du Caucase. Elle va pénétrer dans les provinces arméniennes et constater qu'il n'y a plus d'Arméniens, c'est vidé, il n'y en a plus. Donc ils vont avancer dans la province d'Erzurum, prendre Trébizonde au nord, et donc se retrouver dans des régions qui sont absolument anéanties, puisque tous les villages arméniens ont été rasés, il n'y a plus du tout d'Arméniens. Donc ils font le constat du génocide.
Est-ce que vous pouvez, c'est ce qui est fait dans le livre, hein, vous montrez bien que le génocide a eu lieu progressivement au fil de la guerre, des quelques mois, des premiers mois de la guerre, et suivant aussi les différentes régions où vivent les Arméniens, les processus n'a pas été le même.
Voilà. C'est là qu'on voit l'intelligence d'un programme de destruction. On est vraiment dans une organisation du meurtre. On détruit d'abord les 6 provinces qui sont arméniennes depuis des siècles et des siècles, où les Arméniens sont parfois même en majorité. Donc il faut vider ces provinces de toute présence arménienne. Et ça se fait de mai à juillet 1915. Au mois de juillet 1915, l'opération est terminée. Donc la première partie, le but même du génocide, qui était donc l'extirpation, le déracinement des Arméniens, est réussi. Ensuite, on fait le tour. On ramasse tous les Arméniens de tout le reste parce que à partir de ces provinces, dans l'histoire de l'Empire ottoman, il y avait eu une sorte de diaspora à l'intérieur de l'Empire ottoman. Donc il y avait des Arméniens partout et en particulier en Cilicie, autour de la Méditerranée, où il y avait eu au XIIe siècle un royaume de Cilicie, et plusieurs siècles d'ailleurs. Donc on les regroupe tous vers Alep. Alep qui est le centre, le lieu où on va condenser les déportés survivants. Sur le million de déportés des provinces orientales, il en reste environ 100 000. Ils sont morts sur place ou en route. Les autres, au contraire, on va faire une déportation par chemin de fer. Mmh. C'est la première déportation par chemin de fer. Et on les regroupe autour d'Alep. Ils sont environ 800 000. On va les diriger sur trois directions. Mais la direction principale va suivre la ligne de l'Euphrate jusqu'à Derzor. On se trouve d'ailleurs, je fais une parenthèse, dans l'actualité la plus immédiate de Daesh. Hein. N'oubliez pas que Raqqa, c'était de l'autre côté d'un lieu de déportation. Kobané, c'était un petit camp de concentration. On se retrouve vraiment dans cette géographie. Un siècle après, rattrapé par l'histoire dans un contexte radicalement différent, mais un contexte aussi génocidaire. Parce qu'il y a quand même eu des groupes qui ont sauvé les Arméniens. Et les principaux sauveteurs d'Arméniens, ce sont ceux du Sinjar, les Yézidis du Sinjar, qui ont sauvé 2000 Arméniens. J'insiste un peu sur ce fait, c'est pas dans notre livre, mais j'avoue que cette actualité m'a bouleversé.
En l'occurrence, oui, vous l'évoquez, que dans certaines régions, les Arméniens ont été plus ou moins protégés, parfois même par les autorités turques. En tout cas, certains mettaient plus ou moins de bonne volonté.
Bien sûr, il y a même eu des fonctionnaires turcs, des sous-préfets qui ont été assassinés par le gouvernement ottoman. Il y a eu plusieurs valis, c'est-à-dire des gouverneurs de province, qui ont été déplacés. Et donc, il y a eu aussi des phénomènes moins diplomatiques. À Smyrne, par exemple, on n'a pas déporté les Arméniens. D'abord parce que le général allemand Liman von Sanders s'y opposait, mais aussi parce que le Vali a déclaré que c'est une ville grecque essentiellement et que la Grèce n'étant pas encore entrée dans la guerre, c'est pas la peine de la provoquer. Donc vous voyez, l'élément diplomatique joue. De même, on n'a pas déporté les Arméniens vivants à Constantinople. On a déporté ceux qui étaient déjà déplacés à Constantinople.
Ça, c'était plutôt pour ne pas inquiéter...
Voilà. On est au pied des ambassades. Donc, on est vraiment dans des villes européennes. On est en Europe. Donc,
pourtant, excusez-moi, je vous interromps. Le génocide a été inauguré par l'arrestation de l'intelligentsia arménienne
voilà.
À Constantinople.
Parce que toute l'obsession des jeunes Turcs était de décapiter une résistance arménienne. Ça avait été le cas tout au long d'ailleurs de la période pré-génocidaire. Et là, il fallait commencer par couper toute résistance arménienne. Donc on décapite les notables de la capitale, qui sont vraiment les têtes pensantes à la fois de l'intelligentsia, des journalistes, des écrivains, des avocats, des médecins et des fonctionnaires, etc. Et après, d'ailleurs, dans chaque lieu de destruction, ce qui prouve donc l'organisation de la destruction, on procède toujours de la même manière. Dans une ville, on arrête les notables. On les torture pour leur faire avouer des caches d'armes. Des fois, il y a des vieilles pétoires qu'on a gardées dans les régions montagneuses. Et aussi, surtout, un complot. Il n'y a jamais de complot, ils ne sont pas fous. Quel qu'était le désir intime des Arméniens, ils se sont comportés en serviteurs loyaux de l'Empire ottoman parce qu'ils connaissaient les risques. Donc, des complots, il n'y en a pas eu, mais il fallait les inventer. Et de toute manière, on a séparé immédiatement les hommes valides des femmes et des enfants. Et les soldats qui avaient été incorporés dès août 1914, donc il y a eu une mobilisation générale dans l'Empire avant l'entrée en guerre de l'Empire, avaient été déjà séparés et désarmés, ramenés, regroupés dans des bataillons de travail qui ont été progressivement éliminés. Donc il y a vraiment une organisation de la destruction systématique des hommes qui auraient pu organiser la résistance.
Et puis il y a, comme dans le cas de la Shoah, des termes qui reviennent, des spoliations, la déportation, et quand la population n'était pas massacrée sur place. Et puis s'est posée également la question des cadavres.
Oui, alors, il est évident que dans un génocide, on est tellement frappé par la souffrance humaine que l'on ne met pas en évidence l'autre aspect qui est la spoliation totale. On les vole, on leur prend leurs biens, tout ce qu'ils ont, on en parle moins parce que de toute manière, ils avaient déjà organisé par des lois sur les biens abandonnés. Vous voyez déjà l'astuce. Ils avaient déjà organisé la spoliation. Et en précisant bien d'ailleurs qu'il fallait laisser sa part au gouvernement, c'est-à-dire quand un fonctionnaire ou des gens de police prenaient trop d'argent, il y a eu des procès, effectivement, des condamnations que le gouvernement a rattrapées en expliquant qu'on condamnait des gens qui avaient violenté des Arméniens. Ça, c'est le premier élément. Mais en ce qui concerne les corps, alors là, c'est vraiment une des caractéristiques de l'impossibilité du deuil arménien, c'est qu'il n'y a pas la moindre sépulture. Bon, les uns sont restés sur terre, les autres sont partis en fumée dans la Shoah, mais c'est la même chose. Les corps, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Certains ont été abandonnés, d'autres ont été plus ou moins enterrés.
Jetés dans le Frac.
On a creusé des fosses et puis une grande partie ont été jetés dans le Frac, ce qui fait que c'est ce fleuve qui va se rendre après des centaines de kilomètres jusqu'à l'océan Indien va charrier des morts, comme on a retrouvé d'ailleurs dans le génocide des Tutsis, des corps qui flottaient. C'est donc un des éléments de l'impossibilité du deuil que nous connaissons tous dans les génocides du XXe siècle, c'est cette absence de corps pour les victimes. Et d'ailleurs, les seuls ossements qui demeuraient sur la terre jadis ottomane étaient à Derzor. Et l'une des premières activités de Daesh a été de détruire l'église de Derzor où il y avait des ossements arméniens. Donc on voit vraiment cette volonté de finir le travail. Hein. C'est ça qui est absolument effrayant. Dans cet aspect qu'on va peut-être envisager du négationnisme, c'est que tant que les choses ne sont pas clairement établies, on n'a pas terminé. Du côté des assassins, du moins.
On va effectivement revenir là-dessus. On le voit dans les documents officiels, tout au long du génocide, dès le début du processus, les jeunes Turcs ont tenté de renverser les responsabilités, vous appelez retourner l'accusation, en rendant donc les Arméniens coupables de leur propre massacre, parce qu'ils étaient des traîtres, parce qu'ils se livraient à des provocations. Ce renversement a servi tout au long des décennies qui ont suivi la guerre pour alimenter en Turquie notamment la négation du génocide. Pourtant, il y a eu un procès 1918-1919. Quelle responsabilité ?
Alors voilà, nous avons publié un texte de Talat Pacha, qui est le grand ordonnateur. Quand il devient grand vizir, il fait une déclaration où il explique que les Arméniens ont trahi, donc il pose les bases du négationnisme et de la justification des déportations. Mais avec la fin de la guerre, les jeunes Turcs partent. Donc la situation est renversée. L'Empire ottoman veut sauver sa peau, si je puis dire. On est dans une période où la conférence de la paix va véritablement consacrer les sorties d'empire, la dégradation de cinq empires, de quatre empires plutôt. Et donc il y a des procès qui sont faits par les gouvernements ottomans différents des jeunes Turcs pour redonner... Pour accuser les jeunes Turcs de tous les forfaits que tout le monde connaît. Donc que l'on n'accuse pas l'Empire ottoman, mais qu'on porte la responsabilité de ces crimes sur les jeunes Turcs. Donc il est évident qu'on va solliciter tous les documents qui se trouvent entre les mains des fonctionnaires qui ont reçu ces fameux télégrammes et avoir une documentation colossale qui permet de tenir plusieurs procès, donc le procès central, dont le procès central qui est le procès des unionistes. Procès d'autant plus simple que les accusés ne sont plus là. Donc ils vont être jugés in absentia, condamnés à mort pour ceux qui sont partis, condamnés à des peines souvent plus légères pour ceux qui sont restés, quelques condamnations à mort qui font d'ailleurs un grand scandale dans la population turque, et puis on a quand même, c'est publié dans le journal officiel, c'est publié dans les journaux de l'époque. Donc on a là tout le matériau qui nous permet de prouver sans l'ombre d'un doute raisonnable qu'il s'agit bien d'une orchestration, d'une organisation, d'une préméditation et d'une planification de la destruction des Arméniens.
Et pourtant, en 1999, le ministère des Affaires étrangères turc a parlé de tort partagé. Ça veut dire que c'est un discours qui est toujours d'actualité, ce
renversement. Ah oui, bien sûr. Il est évident qu'ils n'en sortent pas. Tant qu'ils n'acceptent pas de prononcer le mot génocide, tant qu'ils n'acceptent pas de reconnaître l'intention criminelle, qui n'est pas évidemment prouvée par des documents, de même qu'on n'a pas un papier signé d'Hitler, on va exterminer les Juifs. Et il est évident que quand on fait une action criminelle, on la fait dans le secret, on ne donne pas de documents. Et là, d'ailleurs, il y en a déjà suffisamment au moment de l'organisation du crime. Mais la décision même, elle n'est pas signée du groupe qui décide. Donc là, il y a toujours une argumentation qui permet de nier l'intention criminelle. Alors, il se mélange un petit peu les pinceaux, parce que des fois, ils disent, ils reconnaissent tel chiffre, ils en reconnaissent tel autre. Ils disent que c'est une discussion qui doit avoir lieu entre Arméniens et Turcs, ce qui est complètement idiot, dans la mesure où on est en présence d'un crime qui concerne l'humanité tout entière. Moi, je ne suis pas Arménien et je suis autant concerné que n'importe qui est conscient de l'horreur de ce crime. Donc, ce sont des arguments qui ne tiennent pas, qui sont uniquement soutenus par une politique puissante, d'un État puissant, qui d'ailleurs soutient largement Daesh actuellement, comme c'est prouvé par différents événements. Donc on est dans la négation pure. Il y aura sûrement dans l'année 2015 des contre-attaques de la part de la Turquie. Mais nous sommes des historiens. Nous avons donné une documentation. Nous avons interprété ces documents. Nul ne peut contester ces documents parce qu'ils sont tous assortis de preuves. On peut les présenter. Donc voilà comment pouvoir nier un événement qui est prouvé par une documentation aussi riche que celle-là, qu'on pourrait d'ailleurs doubler ou tripler s'il nécessaire était.
Effectivement, ce centenaire va permettre de remettre le génocide des Arméniens sur le devant de la scène internationale. Il est question aussi d'un voyage du président de la République, François Hollande, en Arménie. Est-ce que vous espérez que cette année va pouvoir s'exercer une pression sur la Turquie pour qu'elle reconnaisse enfin
Je crois que les pressions, on ne peut pas dire cela parce qu'il y a tellement d'intérêts entre la Turquie et des différents pays. On voit par exemple que le gouvernement des États-Unis a toujours refusé de prononcer le mot génocide parce que le département d'État bloque, alors que souvent la Chambre des représentants avait accepté. Donc on est dans la politique, nous sommes dans l'histoire. La politique et l'histoire, quand il s'agit d'un État aussi puissant que la Turquie, qui craint pas tellement la reconnaissance du génocide, mais les conséquences matérielles que pourrait avoir une restitution d'une partie des biens. Il paraît qu'en Turquie, on est très inquiet de ce que pourrait déclencher une reconnaissance. Donc voilà, nous sommes des historiens, nous disons l'histoire et nous rappelons ce qui s'est passé.
C'est surtout cet aspect qui bloque, d'après vous, Yves Ternon, plutôt qu'une responsabilité collective
Oh, il y en a beaucoup. La première chose, c'est que ça altérerait l'image de la Turquie, du Turc, si vous voulez, qui, depuis Mustafa Kemal, s'est représenté comme l'homme noble et digne par excellence. Le deuxième argument, c'est que ce sont les principaux responsables du génocide, les secrétaires responsables, qui ont été les fondateurs de la République de Turquie. Donc ça, ce sont des arguments forts que Taner Akşam, d'ailleurs, l'écrivain turc qui a écrit Un acte honteux, un livre remarquable, a souligné. Le troisième argument, il est d'ordre politique, mais il y a évidemment une conjonction d'éléments. Mais je ne m'attends pas du tout à ce que le mot génocide, reconnaissance du génocide, soit prononcé par un gouvernement officiel de la Turquie. Ce serait trop merveilleux.
Je vous remercie beaucoup Yves Ternon. J'invite donc les auditeurs à se plonger dans ce mémorial du génocide des Arméniens qui est paru aux éditions du Seuil. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.